Du nouveau chez les dinos, la famille des dinosaures extrêmement variée avec des espèces très diversifiées. Et bien, une étude publiée il y a quelques jours dans la revue Science apporte pour la première fois la preuve que des dinosaures ont aussi pu être de très bons nageurs. Un squelette de Spinosaurus aegyptiacus, c'est son petit nom, identifié au Maroc, montre une très bonne adaptation au milieu aquatique. Les spécialistes pensent que ce dinosaure doté de pieds plats et palmés pouvait tout à fait se déplacer sur Terre, mais moins facilement que dans l'eau. Et face à une telle découverte, la stupeur s'est donc emparée des aficionados du Crétacé. Pour en parler, évoquer d'autres originalités des dinosaures, je reçois Philippe Taquet et Ronan Alain. Bonjour.
Bonjour.
À tous les deux, bienvenue. Philippe Taquet, ravi de vous retrouver. Vous êtes paléontologue, spécialiste des dinosaures, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, président de l'Académie des Sciences. Vous avez un lien d'ailleurs avec ce dinosaure dont on va parler dans quelques minutes. Alain Roland, vous êtes également paléontologue, chercheur et enseignant au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous avez publié il y a quelques temps maintenant Histoire de dinosaures aux éditions Perrin. On va donc se retrouver avec vous dans un instant pour parler de ces dinosaures aquatiques, mais on va également s'intéresser aux dinosaures à plumes et à un dinosaure géant découvert récemment en Argentine. Vous pouvez nous poser toutes vos questions dès maintenant sur le site de l'émission franceinter.fr et sur les réseaux avec le hashtag l'attaque. Le quiz scientifique de la tête au carré, ce sera pour terminer l'émission avec deux nouveaux candidats. Violaine Ballet est aux commandes et c'est Louis Chevillard qui a préparé aujourd'hui notre dossier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
C'est la course vers la planète Mars ces jours-ci.
On peut le dire, puisque après les Américains, qui dimanche sont parvenus à mettre en orbite leur sonde MAVEN autour de la planète rouge pour en étudier l'atmosphère, c'est au tour de l'Inde de signer un succès. La nuit dernière, ce grand pays a réussi à atteindre la périphérie martienne avec Magallan. Et qui plus est, Magallan est une sonde à bas coût, 74 millions de dollars.
C'est rien du tout.
Rien du tout, non. 671 pour la sonde de la NASA. Oui. Et puis 74 millions, c'est moins cher que le film Gravity, hein, comme l'a souligné le Premier ministre indien. Donc vous voyez, c'est vraiment du low cost. L'Inde devient ainsi le premier pays asiatique à réaliser cet exploit martien, devançant deux autres nations qui sont dans la course, hein, la Chine et le Japon. Vous le savez peut-être, la planète rouge est une cible extrêmement difficile, même si ces dernières années, il y a eu pas mal de succès, c'est vrai. Très longtemps, le taux d'échec était absolument phénoménal. Oui. Deux missions sur trois n'atteignaient pas l'objectif. C'est l'insertion en orbite, en fait, de la planète qui est une phase délicate.
Maintenant qu'ils sont sur place, Sophie, qu'est-ce qu'ils vont faire ces Indiens
autour de Mars ? Faire quand même de la science de base. Parce que vous vous doutez bien, si on fait une sonde pas très chère, c'est qu'on n'a pas mis dessus beaucoup d'instruments très sophistiqués. Pas aussi sophistiqués, par exemple, que la sonde Mars Express, la sonde européenne, qui en ce moment est en orbite de la planète rouge. Pour les Indiens, c'est vrai qu'il aurait été idiot de mettre de la science coûteuse pour cette première tentative. Alors, comment ils y sont parvenus ? D'abord, un temps très court. 3 ans pour ce programme, c'est vraiment très très court. Les Américains comme les Européens, il leur faut à peu près 10 ans pour arriver à ce résultat. Et puis, donc, 15 kilos seulement d'instruments scientifiques. L'Inde est discrète. Alors, les étrangers ne savent pas trop le niveau de sophistication des instruments de bord, mais on sait qu'il y a un détecteur de méthane.
Mais pourquoi donc le méthane ?
Eh bien, le méthane, on l'associe à la vie. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, ni en étant à terre, comme les petits robots Opportunity, Spirit ou Curiosity en ce moment, ni même à distance, hein, en orbite, comme Mars Odyssey, MRO ou Mars Express. Mais quand même, on cherche. Évidemment, si on arrive à trouver des traces de ce gaz, ce serait une révolution de taille. D'ailleurs, les missions futures, hein, américaines ou européennes, chercheront elles aussi le méthane, notamment c'est le cas d'ExoMars.
Quoi d'autre hormis la détection du méthane ?
Alors il y a un appareil photo. Hein.
C'est super.
Toujours. Oui, d'abord ça permet de voir le sol martien parce qu'on n'est pas allé si souvent autour de Mars, donc on va découvrir sûrement de nouvelles vallées, de nouvelles montagnes. Et puis évidemment pour la communication c'est très très bon. Cette photo a déjà été transmise sur la page Facebook de l'Agence spatiale européenne. On y voit donc une vue du sol martien à 7300 km d'altitude et ça a permis de
l'Agence spatiale européenne ou
l'Agence spatiale indienne. Et du coup, on nous dit que la vue de là-haut est très belle. Voilà.
Très bien, bonne
nouvelle. En tout cas, ce succès est évidemment salué par la presse indienne ce matin. On voit quand même là une des priorités de ce grand pays, je disais démographiquement parlant, parce que l'Inde a toujours mis au rang de ses priorités l'éducation et l'augmentation des connaissances. Et cette sonde martienne fait partie de ses priorités.
Voilà. Et la bataille martienne, effectivement, donc avec les Indiens. Sophie, vous avez à votre gauche Philippe Taquet, que vous allez retrouver demain matin. Voilà, pour le 7-9 de France Inter.
Tout à fait. En direct, la grande galerie.
Voilà.
de l'évolution du Muséum national d'histoire
naturelle. Que l'on doit à Philippe Taquet, justement, précisément.
Et oui, un membre imminent de cette histoire
voilà.
historique.
Donc ce sera...
Vous parliez de l'Académie des Indes. Je suis allé à New Delhi pour le sommet des académies. Et les Indiens, en effet, ont une excellente Académie des sciences.
Et d'excellents informaticiens.
Et d'excellents chercheurs.
Voilà. Et demain, on parlera donc de la Galerie de l'Évolution avec Patrick Cohen. Toute l'équipe de la matinale, Sophie, sera sur place. Vous allez donc
déambuler. Et nous invitons les auditeurs à venir nous rejoindre
voilà.
dès 7h.
C'est ouvert dans la limite des places disponibles. Donc demain matin, 7h, à Paris, évidemment, 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, dans le 5e arrondissement. Merci beaucoup, Sophie. Et donc, à demain matin et à la semaine prochaine pour La Tête au Carré. Dans un instant, notre dossier dinosaure, avec vos messages dès maintenant, franceinter.fr et le hashtag l'attaque. Rolls-Royce avec Car Wash à l'instant sur France Inter.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Avec cet après-midi des dinosaures aquatiques, des dinosaures à plumes, le plus grand dinosaure jamais découvert, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, tout ça au menu de notre émission avec mes invités, les paléontologues Philippe Taquet et Ronan Alain. Et toutes vos questions, dès maintenant, elles arrivent sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'attaque. Plusieurs publications, c'est aussi la raison pour laquelle nous faisons cette tête au carré cet après-midi, ont apporté de nouvelles informations sur différentes espèces de dinosaures. Philippe Taquet et Ronan Alain, votre discipline, en fait, réserve sans cesse de nouvelles nouvelles surprises. Ça n'arrête jamais, hein, au gré des fouilles qui sont organisées, Philippe Taquet. Hein.
C'est ce qui fait le charme du métier, c'est que toujours il y a du nouveau. Oui. Et on est un peu surpris à chaque fois par tout de même ce monde immense qui s'est adapté à beaucoup d'éléments, d'écosystèmes. Finalement, les dinosaures ont été très performants.
Oui, c'est vrai. Ils sont même capables de nager, hein. C'est ce qu'on va voir. Ils étaient capables de nager. Renaud Alain, il y a vraiment beaucoup de choses nouvelles là, qui sortent en ce moment, ou ce sont des confirmations au fait d'informations que vous aviez, d'hypothèses que vous aviez déjà proposées?
Un petit peu de tout. C'est vrai que l'été a été... on n'a pas attendu la rentrée littéraire. Ça a été les publications au mois de juillet, au mois d'août. Alors, ce n'est pas très sympa de la part des collègues, puisque c'est vrai qu'on est tous sur le terrain à ce moment-là. Donc, on a découvert pas mal de papiers qui sont sortis pendant l'été. Ouais. Donc, avec des dinosaures à plumes, mais là où on ne les attendait pas, avec donc ce spinosaure aquatique qu'on se doutait déjà qu'il était aquatique, mais avec des nouvelles précisions, des nouveaux apports. Avec aussi encore des géants. Mais je crois que cette année, on a annoncé 3 ou 4 fois que
oui, c'est vrai,
le plus
même
grand dinosaure.
Avant l'été, hein, fait l'annonce ici. Et en fait, il y a eu une nouvelle publication depuis, avec un dinosaure plus petit, mais qui serait quand même le plus grand. Donc on va essayer de l'expliquer dans quelques instants pour tenter de comprendre tout ça. Philippe Taquet, finalement, cette science autour des dinosaures, ce n'est pas une science très très ancienne quand même.
Non.
Les premières fouilles ont été exercées à quel moment à peu près?
Le premier dinosaure, c'est 1824, donc ça n'est pas si vieux, c'est justement un dinosaure carnivore, le mégalosaure.
Ouais.
Mais l'histoire du Spinosaurus dont vous parliez a été une histoire faite de plusieurs chapitres, et c'est une histoire assez fascinante, assez passionnante.
Notre dinosaure aquatique, c'est l'histoire que vous allez nous raconter dans un instant, effectivement. Il y a une première question de Jean-Paul qui est très large, parce qu'il nous dit ceci sur franceinter.fr. Qu'est-ce qui distingue les dinosaures des autres espèces, donc du reste du monde vivant quasiment, hein?
Oui, déjà, il y a 800 espèces différentes de dinosaures. Donc déjà, on arrive à distinguer très facilement un tyrannosaure d'un diplodocus et un diplodocus d'un iguanodon. Alors après, qu'est-ce qui est commun à tous ces dinosaures? Effectivement, c'est souvent, leur façon de se tenir, puisqu'ils ont des membres verticaux sous le corps, des membres érigés, donc un moyen de locomotion qui diffère un petit peu de ce qu'on connaît chez les autres reptiles. Même si quelques crocodiles ont aussi ce type de locomotion. Mais ça reste le principal trait des dinosaures, c'est cette espèce de moyen de locomotion avec des animaux redressés
ça n'a jamais existé avant ou après dans le monde vivant?
Ça n'a... Alors si, puisque en fait, nous sommes nous-mêmes en tant que primates, enfin pas tous les primates, mais en tant qu'humains plutôt, devrais-je dire, on est nous-mêmes dressés sur nos pattes. Mais la bipédie a été inventée par les dinosaures bien avant l'homme. Donc c'est quelque chose qui est propre au moins ces reptiles.
Philippe Taquet, 800 espèces de dinosaures, est-ce qu'on peut encore en découvrir ou pas?
Toutes les semaines.
Ouais.
Certaines espèces nouvelles sont nommées, certaines d'après des restes un peu fragmentaires et qui quelquefois tombent en synonymie, comme on explique, c'est-à-dire qu'en fait s'apparentent à des choses qui ont déjà été trouvées. Mais tout de même, grâce à la multiplication des fouilles partout dans le monde, à l'exploration de terrains nouveaux, on trouve sans cesse, y compris chez nous en France, et Ronan est bien placé pour exploiter un nouveau gisement avec des espèces magnifiques.
On parlait des dinosaures charentais avec vous, hein, Ronan, c'est ça. Hein.
On a fait la 5e campagne là, cet été à Anjac, ça s'est très bien passé. C'était plutôt une année à tortue cette année d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
On a trouvé une tortue complète, donc c'est le premier spécimen complet. Donc ça,
vous avez daté déjà ou pas?
Qu'on a daté, on est toujours, dans la façon, tous les animaux ont à peu près la même taille, donc on est à 130 millions d'années.
À quoi ressemblaient les tortues à cette époque?
Le diamètre de la carapace est d'environ une cinquantaine de centimètres, donc c'est déjà une tortue assez large, une tortue aquatique, et voilà, donc on attend, elle est au labo, là elle est en cours de dégagement, on l'a pas encore vue, on sait qu'elle est complète, ça nous a beaucoup excité quand on l'a trouvée cet été sur le terrain, donc voilà, je pense qu'elle sera visible d'ici 7-8 mois, mais d'abord il faut s'atteler à la préparation du matériel.
Quelle est la pièce majeure pour l'instant du site d'Anjac en Charente que vous avez découvert?
Ça dépend à qui vous posez la question. Ceux qui travaillent sur les tortues vont vous dire que c'est la nouvelle tortue. Certains vont vous dire que c'est notre grand fémur de ce robot de 2m20 ce qui tourne autour. Moi, je vous dirais que c'est notre troupeau. Maintenant, on est passé à 31 individus cet été.
Troupeau de quoi?
De petits dinosaures autruches.
Ouais.
Donc 31 individus. Et puis voilà, on est content aussi puisque les pouvoirs publics nous aident de plus en plus. On va pouvoir mettre des étudiants maintenant.
Ouais.
On a trois étudiants qui vont commencer à travailler cette année autour d'Anjac.
On a notre stagiaire, Louis Chevillard, qui travaille en ce moment sur la tête au carré et qui a même découvert
une une énorme, énorme dent de théropode, là, et elle a été préparée hier. Il a reçu les photos hier soir.
Voilà. Donc, vous accueillez aussi de jeunes étudiants sur les sites, comme ça, pour vous aider à fouiller ?
Des bénévoles, étudiants, oui, première année de licence, ouais. Master, si possible, déjà en paléontologie, archéologie, géologie. Bon. Puis, ça leur permet de se former au métier sur le terrain.
C'est de la vraie science participative, oui, Philippe Taquet. Ouais. Ça, c'est formidable. Alors, je pense évidemment à ce dinosaure qui a fait beaucoup parler de lui très, très récemment, gigantesque, qui pourrait battre tous les records de taille admis jusqu'à maintenant, qui a été découvert en Argentine. 26 mètres de long, près de 60 tonnes, les mensurations sont absolument colossales. Il pèse autant qu'une dizaine d'éléphants, dit-on dans les communiqués, pour avoir déjà une échelle de poids. C'est vraiment le plus grand ou pas, Ronan Alain ? Parce que j'ai le souvenir d'avoir parlé d'un dinosaure encore plus grand au mois de mai avec vous.
Voilà, alors au mois de mai, c'était un petit peu comme nous en Jacques. C'est des collègues argentins qui ont donné quelques premières informations sur un dinosaure qui n'est pas encore décrit. Donc qui sont des dinosaures de très grande taille. Après, ce qu'il faut voir aussi dans cette espèce de fuite de course en avant au dinosaure le plus grand, c'est qu'on a... Qu'est-ce qu'on entend par grandeur ? Est-ce que c'est dinosaure grand ou gros ? Là, il semblerait que la nouvelle découverte que les collègues ont faite en Argentine, c'est un gros dinosaure de 65 tonnes. Ils ont des modèles mathématiques qui leur ont permis de calculer ce poids-là.
Oui.
Mais ce n'est pas le plus grand, hein, puisque 26 mètres, vous prenez le Diplodocus de la galerie de paléontologie au muséum, il fait 25 mètres et c'est considéré comme un nain par rapport au brachiosaure qui va se trouver à Berlin ou autre.
Ouais.
Donc, la taille, le poids sont deux choses très différentes. On confond grand, on confond gros. Et puis surtout, même si c'est des grands dinosaures sauropodes, c'est pas du tout les mêmes groupes. C'est-à-dire que là, on est dans le groupe des titanosaures, un groupe qui est très diversifié au Crétacé. Alors qu'effectivement, nous, en Jacques, on va plutôt avoir des animaux qui sont plus primitifs. On est plus du côté des diplodocoïdes ou des choses comme ça.
Philippe Taquet, justement, encore un mot sur ce dinosaure de la famille des titanosaures. C'était des herbivores.
Oui, j'allais en Patagonie. C'est un endroit c'est ça qui est magnifique. Avec beaucoup de trouvailles, mais déjà au siècle dernier, on trouvait déjà des titanosaures en Patagonie. Le site s'y prête très bien parce que c'est de la steppe et donc les affleurements sont très visibles. Et l'Argentine, oui, est un des pays privilégiés pour ces géants herbivores.
Ouais.
En fait, végétariens, on devrait dire, parce que les herbes, c'est plus précis en botanique et n'apparaissent qu'au Crétacé moyen. Donc, qui sont végétariens. Et l'herbe apparaît bien après, et avec d'ailleurs les papillons, les insectes pollinisateurs, les graminées. Donc, il faut bien distinguer végétariens et herbivores.
Oui, c'est important pour être tout à fait exact scientifiquement.
Oui.
Hein. C'était il y a 77 millions d'années à peu près, je crois, pour ce dinosaure en tous les cas. On peut imaginer son mode de vie, de quelle façon il se déplaçait avec ce poids très important ou pas ?
Oh, assez lentement, un peu la manière des éléphants probablement. On a un certain d'idée là-dessus parce que les empreintes, les traces et les pistes donnent des bons témoignages de la façon dont les troupeaux évoluaient, s'ils étaient nombreux, s'il y avait des petits, des adultes. Et même, on arrive à mesurer leur vitesse avec des formules mathématiques un peu compliquées.
Ah oui, c'est vrai.
Et entre l'écartement, entre les pattes avant et arrière, avec la hauteur du bassin, il y a une formule qui permet de savoir à peu près à quelle vitesse.
Pour le sauropode, c'est pas très très drôle, parce que comme il pouvait pas courir...
Oui, mais ça marchait vite ou pas?
C'est quelques kilomètres heure.
Ah oui, c'est quelques kilomètres heure. Je pense qu'on peut monter comme des éléphants.
Comme des éléphants.
À la différence qu'un éléphant peut charger.
Oui.
Là où un...
C'est plus compliqué de...
On n'a pas limite. On n'a pas encore essayé. C'est vrai que, comme disait Philippe Taquet, on a énormément d'empreintes de pas connues à travers le monde depuis très très longtemps. On n'a encore jamais retrouvé de pistes de dinosaures sauropodes en train de courir, alors qu'on en a trouvé de dinosaures carnivores en train de courir.
Alors on va parler de cette étude récente publiée dans la revue Science qui nous apprend que certains dinosaures pouvaient aussi être de très bons nageurs. Alors est-ce qu'on l'apprend vraiment, Philippe Taquet, vous qui connaissez bien ces dinosaures spinosaures?
C'est une belle et longue histoire à laquelle j'ai été mêlé, et puis d'ailleurs à laquelle est mêlé maintenant Ronan, il vous en parlera après, mais cette histoire commence en l'année 1911, quand un Allemand intrépide d'ailleurs, qui s'appelait Freiherr Herrn Stromer von Richthofen, c'est tout un programme.
Vous aimez le dire.
Avec une grande barbe noire, est allé en Égypte. Et c'est assez courageux. Avant la guerre 14-18, à l'ouest du Caire, dans le désert du Sahara, dans une oasis qui s'appelle Barija. Et là, il a trouvé plusieurs dinosaures. Certains sont devenus célèbres, comme le fameux Carcharodontosaurus. Et puis, il a trouvé les restes d'un dinosaure, pas complet, mais qui avait des fragments de mâchoire allongés, quelques vertèbres cervicales et surtout des vertèbres du dos, quelques-unes, qui avaient une très longue épine au-dessus D'où le nom qu'il a donné en 1915, parce que les fossiles ont mis du temps à arriver. Il y a eu la guerre 14-18, c'était compliqué pour que les fossiles rejoignent l'Allemagne et Munich. Bon, il a décrit ça en 1915. Spinosaurus aegyptiacus, le saurien à épines d'Égypte. Il a créé une famille, celle des Spinosauridae.
Oui. Et cette épine, il faut l'imaginer très grande, sur le dos de ce dinosaure. Comme une voile, c'est ça.
Voile.
Ouais. Fait un mètre, elle est à peu près à plus d'un mètre de hauteur, 1m20,
oui,
je crois.
Pour oui, c'est tout à fait surprenant. Ouais. Alors, il n'avait pas les éléments complets d'un squelette, mais il s'est douté de l'originalité de cet animal. Et en particulier, il a bien vu que le museau était assez allongé. Puis, les années se sont écoulées et il y avait un drame. C'est que pendant la guerre 40, la Royal Air Force, en avril 1944, est venu bombarder les alentours de la gare de Munich, où il y avait un nœud ferroviaire, et on détruit intégralement le musée où se trouvaient les restes du spinosaure et les autres, d'ailleurs. Et donc, tout a disparu dans la poussière. Fin du premier chapitre. Deuxième chapitre, en 1965, donc bien longtemps après, j'ai été envoyé au Niger, sur la trace
donc
du chercheur d'uranium.
Tout jeune paléontologue.
Oui, j'avais 25 ans. Ouais. Et j'ai traversé le Sahara en voiture, sans GPS, avec une boussole. Et à l'époque... Il faut le dire, à l'époque, c'était faisable et très agréable. Les gens étaient très accueillants et on pouvait se promener dans le Sahara sans aucun problème. Et donc au Niger, dans le désert du Ténéré, j'ai trouvé des tas de dinosaures, mais effectivement, les restes très fragmentaires d'un bout de museau, des mandibules et des bouts de maxillaires qui témoignaient d'un museau long et étroit d'un dinosaure carnivore. On est dans des terrains plus anciens que ceux d'Égypte, mais... Oui. Et ma conclusion a été
museau long étroit, on peut imaginer un crocodile quasiment.
Alors, hein, j'en viens là. Donc, j'ai décrit ces quelques restes en me demandant si ce n'était pas un crocodile à museau long. Il y en a. Le gavial mange un museau long. Mais ce n'était pas vraiment du crocodile. Et en fait, donc, j'ai fait le rapprochement avec ces restes trouvés par Stromer pour montrer que c'était de la même famille, des Spinosauridae. Pas le même genre, mais la même famille. Et j'ai publié en 1984, une note à l'Académie des sciences et qui était intitulée « Une curieuse spécialisation du crâne de certains dinosaures carnivores du Crétacé, le museau long et étroit des Spinosauridae ». Oui, j'ai été mêlé donc à cette affaire. Et bien m'en a pris parce que j'avais peu de choses. Mais qui dit museau long, comme le gavial, le dauphin, dit vertébré mangeur de poissons pour les attraper.
Donc il y a un indice là déjà.
Il y a un indice.
Sur son lien
donc,
aquatique.
Donc j'ai été le premier à écrire qu'il y avait des dinosaures piscivores. Bien m'en a pris, c'est ça les hasards de la science, c'est que 6 mois après, mes amis anglais, Alan Charrig et Angela Milner, du British Museum, trouvaient en Grande-Bretagne, dans une carrière d'argile, les restes alors assez complets, encore d'un autre spinosaure. Et là, il était assez joli, ils l'ont appelé Baryonyx, et ils ont confirmé ce que j'avais écrit, ils ont été très fair-play, parce que dans leur note à Nature, ils ont repris ma phrase en français. Oui. C'était très remarquable de la part de mes collègues anglais, pour confirmer qu'il y avait des dinosaures piscivores.
Spinosaures piscivores. Mais là, alors, du coup, l'affaire a un petit peu évolué. Hein.
Voilà, alors, c'est la fin du deuxième chapitre.
On a découvert d'autres choses depuis.
Alors, après, on s'est mis à en trouver un peu partout, au Maroc, même au Brésil. Et les Marocains ont, dans le sud du Maroc, dans la région des Kemkem, des tas de beaux gisements. Et donc, ils en ont trouvé. Mon collègue américain, Del Russell, avec qui on a bien travaillé, va nommer celui du Maroc Spinosaurus marocanus. Alors là, maintenant, on arrive à l'époque actuelle, où récemment, des Italiens se sont procurés auprès des marchands de fossiles, parce que les gisements sont exploités par la population, qui gagne sa vie avec ça, les restes d'un spinosaure assez bien conservé. Et nos amis marocains, dont l'un est un de nos anciens étudiants, Samir Zouri et Ibrahim Nizar, sont allés sur place récupérer le reste de l'animal. Bon, il y avait deux équipes qui avaient, au fond, les éléments d'un très beau spécimen. Et ils ont astucieusement décidé de se mettre ensemble, plus les Américains qui accueillent un des étudiants marocains en ce moment à Chicago, avec Paul Serin. Les trois équipes se sont mises ensemble et ont décrit l'ensemble de ce nouveau spécimen qui est magnifique.
Et là, donc, il y a cette publication, Ronan Alain, qui nous indique, donc on va plus loin, que ce dinosaure était vraiment un très bon nageur.
Oui, il était enfin un très bon nageur. J'irai peut-être pas jusque là, mais
c'est ce qui est écrit en
c'est
tout cas.
C'est ce qui est écrit. En fait, il faut un petit peu reprendre cet article, le relire et puis séparer l'ivraie du bon grain, si je puis dire. Les grandes nouveautés de ce qui est fait, c'est que ils ont un animal qui est très étonnant puisqu'il fait 15 mètres de long, donc c'est le plus grand dinosaure carnivore, même s'il est piscivore essentiellement. C'est le plus grand dinosaure carnivore connu, sauf qu'il a un fémur qui est tout petit. Et donc effectivement, ce fémur, ses membres tout petits, implique que l'animal devait avoir beaucoup de mal à se mouvoir sur la terre ferme. Et si on regarde ce fémur et qu'on le coupe, qu'on regarde une coupe histologique, on va se rendre compte que l'os est complètement compacté, il y a une compaction. Et cette compaction est souvent liée à une réadaptation au milieu aquatique. Donc c'est surtout ça qu'il démontre dans cette note, c'est qu'effectivement, on a une adaptation sur le squelette à un environnement aquatique. Maintenant, est-ce qu'il nageait bien? Je ne pense pas. Et est-ce que c'est vraiment nouveau? Parce qu'on a plein d'autres preuves. En fait, l'histoire il y a encore plein de petits pics un petit peu à rajouter à tout ce qu'a raconté Philippe. On peut citer des collègues de l'Université de Lyon, Romain Amiot, qui, il y a quelques années, avait publié une note, il y a deux ans, une note où il étudie les restes dentaires de ces spinosaures et grâce au fractionnement isotopique de l'oxygène, il avait suggéré déjà que ces animaux étaient aquatiques. Donc c'était quelque chose déjà de connu et on reprend plusieurs éléments.
Allez, on y revient avec vous dans un instant. Il y a des messages pour vous sur franceinter.fr d'auditeurs très intrigués par ces spinosaures aquatiques. Et on vous retrouve juste après Ancre, Émilie Simon dans La Tête au Carré.
Avant de salir,
thank you.
tu le classifierais, Billy ?
Eh ben, c'est un super prédateur. Tsukimimus. Long museau.
Non, pense plus gros.
Baryonyx ?
Pas avec cette queue. Spinosaurus aegypticus.
Voilà. On ne saura jamais assez remercier Steven Spielberg d'avoir fait Jurassic Park, car grâce à lui, on peut passer des extraits de son film quasiment chaque fois qu'on parle des dinosaures. Et là, en l'occurrence, ce Spinosaurus aegypticus, qui a fait l'objet donc d'une publication Science assez récemment, pour nous parler donc de ce dinosaure qui nageait. Vous prenez beaucoup de précautions, j'ai l'impression, Ronan Alain, quand même, par rapport à ce qu'on veut nous dire de ce dinosaure nageur.
Je ne prends pas beaucoup de précautions, j'essaye aussi de remettre, il y a eu beaucoup de travaux faits sur les spinosaures depuis 20 ans, donc tout n'a pas été découvert dans cette publication. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, donc je parlais des analyses isotopiques faites par nos collègues de Lyonnais. Ouais. Baryonyx avait aussi été une découverte très importante, on en parlait dans les années 92, parce que ça reste toujours, Baryonyx, le squelette de spinosaure le plus complet qui existe. Et Baryonyx nous indique des choses différentes. Baryonyx était mangé du poisson, puisqu'on a retrouvé des restes de poisson dans le contenu stomacal, hein. On a au niveau des côtes retrouvé ce qu'il mangeait, mais on a aussi retrouvé des restes d'autres dinosaures, donc il n'était pas que aquatique. Alors, en même temps, c'est vrai que la note publiée par les collègues parle de Spinosaurus, mais pas de tous les Spinosaurus.
Bon, je parlais tout à l'heure en présentation, Philippe Taquet, de palmes au pied de ce Spinosaurus, vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que c'était un dinosaure palmé?
Non, le squelette ne permet pas de dire ça. Il a simplement des phalanges ongulées à la patte postérieure, plus larges, assez aplaties, qui sont moins tranchantes que les autres dinosaures carnivores. Ce qui est quand même, ils ont quand même, et ça c'est très étonnant comme spécialisation, une énorme griffe, et c'est celle qui nous avait permis d'avancer, qu'il attrapait à la façon des ours en Alaska, le long de la rivière, des gros... pas des saumons là, mais des sélacantes. Donc la griffe en question devait servir quand même à crocheter.
Christophe nous demande sur franceinter.fr à quoi servait donc cette voile du spinosaure, donc cette épine dont vous parliez tout à l'heure, qui fait 1,20 m sur le dos. Hein.
Alors justement là, c'est très intéressant, puisque Baryonyx, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas de voile sur le dos, ou du moins on ne la connaît pas, et personne ne reconstruit l'animal avec cette voile. Donc tous les spinosaures n'ont pas cette voile.
Ouais. Mais ceux qui l'ont ont une très belle voile.
Et voilà.
Alors, c'est impressionnant, quand on voit les représentations qui sont faites de l'animal.
On en a retrouvé sur un animal du Laos, c'est la voile est sinusoïdale. Oui. Elle fait des sinusoïdes. On l'avait appelé Ichthyovenator, chasseur de poissons, puisqu'on pense que vous voyez, on l'a appelé en 2012 chasseur de poissons. Donc on se doutait déjà que ces animaux étaient mangés des poissons. C'est pas quelque chose de complètement nouveau. Mais donc ce qui est très marrant, effectivement, c'est que cette voile, pendant très longtemps, on a voulu en faire quelque chose qui était lié à la thermorégulation de l'animal. Et de plus en plus, je pense que maintenant tout le monde est d'accord, et c'est ce que disent aussi les collègues américains là dans l'article, c'est que la voile est surtout là comme une ornementation, un caractère sexuel secondaire.
Comme le paon, en fait.
Voilà, elle est là pour faire joli, c'est un moyen de reconnaissance.
Ça prend beaucoup de place, quand même. Hein.
Ça prend pas mal de place, et on peut revoir justement le Jurassic Park 3 de Spielberg, et on verra que la voile a peut-être quelque chose à faire avec le fait que l'animal se déplace dans l'eau, mais pour l'instant, je pense que c'est trop tôt. Ils ont montré qu'il n'y avait pas d'irrigation sanguine particulière au niveau de cette voile, et que donc elle est juste là pour décorer.
Lucien demande sur franceinter.fr, un dinosaure sachant nager et évoluer sur Terre est-il une charnière de l'évolution de son espèce aquatique terrestre, Philippe Taquet?
Non, pas du tout. C'est dans l'ensemble de la famille, de tous les genres, certains se sont spécialisés dans un mode de vie particulier. On connaît, par exemple à Madagascar, des dinosaures spécialisés dans un régime insectivore. Donc ça aussi, c'est un peu surprenant et relativement récent. Il a des dents futées, pointues vers l'avant, un peu comme les pygriège qui, pense-t-on, attraper les insectes de cette façon. Non, il y a, comme dans le monde par exemple, des lézards aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'adaptations différentes en fonction des écosystèmes dans lesquels ils évoluent.
Oui. Est-ce qu'ils ont vécu jusqu'à la fin des dinosaures, justement, ces spinosaures?
Alors les spinosaures, non, sont une durée de vie, on va dire, dans l'histoire du groupe, assez limitée. Les plus vieux spinosaures, pour l'instant, datent, on va dire, du début du Crétacé inférieur, 130 millions d'années, c'est Baryonyx. Et ils disparaissent à la fin du Cénomanien, c'est-à-dire, on est à peu près 90 millions d'années. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est pas grave. Mais c'est voilà, fin du Cénomanien, c'est sûr, et on les connaît pas. Au moment de la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années, les spinosaures ont déjà disparu avant.
Bon, on sait pourquoi ils ont disparu ou pas, ceux-là?
Justement, à la fin de cet étage qu'on appelle le Cénomanien, qui a été défini en France à côté du Mans, on a beaucoup de dinosaures qui disparaissent et toute la faune des Kemkem, toute cette région du Maroc qui a livré entre autres le Spinosaurus, tous les animaux qu'on trouve là-bas vont disparaître à ce moment-là. Pourquoi, on ne sait pas encore, sans doute lié à des changements marins très importants, puisque le Cénomanien marque un épisode transgressif, c'est-à-dire un épisode de très haut niveau marin. Les niveaux marins augmentent quasiment sur tout le globe.
Est-ce qu'on va découvrir d'autres dinosaures nageurs
On a émis l'idée sur ces phases où on retrouve sur des immenses étendues sahariennes des niveaux fossilifères, comme ceux-là, qu'il y avait sur cette plateforme de grands courants de marée, un peu comme des tsunamis. Parce que les poissons aussi meurent un peu noyés eux-mêmes. Vous disiez que...
Qu'est-ce que je vous disais d'ailleurs, je ne sais plus. Ah oui, c'est qu'on va découvrir d'autres dinosaures marins.
Dinosaures fréquentant les eaux, oui, certainement. Complètement marins, non.
Bon.
Enfin, je ne crois pas.
Donc là, on a vraiment des espèces assez marginales, quand même.
Hein. C'est des espèces marginales, c'est des espèces d'eau douce, un petit peu comme nos crocodiles, ou même plutôt, on pourrait peut-être plutôt prendre les hippopotames, ou certains animaux, comme il faut savoir qu'il y avait des paresseux aquatiques aussi qui existent.
Vous avez un bel exemple aussi, des fameuses iguanes des Galapagos, qui vivent sur les rochers, sont des reptiles, et ils vont plonger pour aller manger des algues, puis remonter à la surface.
Comme les varans de Komodo, également, qui adorent nager. Charlie demande sur franceinter.fr, est-ce qu'il existait des dinosaures capables de grimper aux arbres ?
Probablement, puisqu'on arrive de plus en plus, en particulier avec les nouvelles espèces décrites en Chine, de tout petits dinosaures. Donc déjà, pour grimper un arbre, il faut être de taille relativement modeste. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose de bien connu chez les dinosaures. Et justement, l'origine du vol chez les oiseaux, le passage dinosaure-oiseau, on a toujours un débat assez intense entre les partisans d'un vol qui se ferait à partir du sol, avec des animaux qui courent et qui vont s'envoler, ou d'animaux plutôt planeurs à la base. Et on commence à revenir de plus en plus à cette notion de dinosaure arboricole et peut-être même planeur, mais pas encore volant.
Oui, c'est une bonne introduction pour parler des plumes, évidemment, chez les dinosaures dans un instant, mais on va s'offrir encore un extrait de Jurassic Park.
Le nouveau programme est incroyable. Si ça continue, dans quelques années, on n'aura même plus besoin de creuser.
Où sera le plaisir, alors ?
C'est encore un peu déformé, mais ça ne vient pas de l'ordinateur.
Oh ! Contraction post-mortem des ligaments postérieurs, du coup. Vélociraptor ?
Oui, la forme est bonne. 1m80 de haut, je pense, 2m80 de long. Et regardez ces petits os en demi-lune à cette attache. C'est pas étonnant que Siloustique ait appris à voler. Non, sérieusement. Bon, peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Regardez cet os pubien, tourné vers l'arrière, comme un oiseau. Regardez les vertèbres. Pleine de poches d'air et de cavités, comme un oiseau. Et même le mot raptor veut dire oiseau de proie.
Alors, bonne question, merci Steven Spielberg.
Oui, d'ailleurs, il est sympa parce qu'il a eu comme conseiller un centre de spécialistes de dinosaures, dont notre copain Jack Horner, qui a été consultant. Et pour remercier les chasseurs dinosaures, il a versé des royalties à la Dinosaur Society sur les bénéfices des films.
C'est donc sympa. Scientifiquement, c'est assez solide quand même. Hein
ah oui.
Hein, ce qu'il y a dans le film.
La reconstitution, oui, c'est
absolument.
Ce qui fait leur charme. Avec bon, puis les progrès de l'imagerie, mais il a été, à mon sens, bien conseillé. Même si la première version de Jurassic Park, le premier épisode, vous mettez des dinosaures du Jurassique avec ceux du Crétacé. Et le film aurait dû s'appeler Crétacé Park parce qu'il y a plus de dinosaures du Crétacé, mais ça c'est du cinéma.
Alors justement, sur le lien entre les oiseaux, la parenté en tout cas entre oiseaux et reptiles, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Et puis parlons des plumes, parce que ça aussi c'est intéressant de pouvoir en discuter. Il y a des choses récentes qui sont découvertes dans ce domaine.
En fait, là maintenant, on est même plus dans le débat de l'origine dinosaurienne des oiseaux, puisque les dinosaures à plumes, c'est depuis 96. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui commence à être bien intégré par le plus grand nombre. Donc, les plumes apparaissent chez les dinosaures carnivores. C'est ce qu'on racontait il y a encore, on va dire, un an. Les plumes apparaissent chez les dinosaures carnivores. On les trouve chez les oiseaux. Allez. Elles sont héritées chez les oiseaux des dinosaures carnivores, plus tous les caractères anatomiques en commun dont on vient de parler en écoutant l'extrait de Jurassic Park 3, tout ça nous dit que les oiseaux descendent des dinosaures. Je pense que le monde scientifique est d'accord.
Il y a une unanimité là-dessus.
Voilà, il y a une unanimité là-dessus, et je pense que le public maintenant commence à être de plus en plus conscient. Par contre, il y a eu des découvertes terribles.
Depuis,
il y a eu deux découvertes.
Depuis un an.
Deux et demi, depuis un an à peu près, oui. Faites par notre collègue belge Pascal Godefroy, qui, en Sibérie, a trouvé des plumes chez des dinosaures chez qui on ne les attendait pas. Donc,
Elles sont dans quel état d'ailleurs les plumes qu'on retrouve ?
Alors voilà, justement.
Parce qu'on dit en Sibérie, donc j'imagine que le froid a joué un rôle peut-être de conservation, mais elles sont dans quel état ?
Non, parce que c'était avant que la Sibérie soit
sibérienne.
Soit sibérienne, on a envie de dire. Il n'y avait pas de froid sibérien encore à l'époque.
Alors,
par contre, effectivement, il faut bien. Même si on se penche sur la forme des plumes, même chez un oiseau actuel, il y a différentes plumes. Vous avez des rémiges, vous avez des rectrices, donc ces plumes qui vont servir au vol. Et puis vous avez ces plumes qui couvrent le corps de l'animal et qui sont en fait des tout petits filaments. Et en fait, chez les dinosaures, on va trouver déjà tous ces types de plumes. Donc il y a différents stades d'évolution de la plume. Et là, ce qu'on a trouvé en Sibérie, donc, c'est des plumes très simples, très frustes. Et on les a trouvées chez un groupe, si on veut faire simple, les dinosaures sont divisés en deux grands groupes. Le groupe de ce qu'on appelle les saurischiens, dans lequel on va mettre les oiseaux et les dinosaures carnivores, et de l'autre, les ornithischiens. Donc on a une lignée qui va amener aux oiseaux, et puis l'autre qui ne mène pas aux oiseaux, on va voir l'iguanodon, le tricératops et tous ces animaux-là. Et là, c'est chez cette lignée-là, c'est la lignée du tricératops et de l'iguanodon, qu'on vient de retrouver des animaux qui ont l'air de porter des structures qui ressemblent à des plumes, très étrangement à des
plumes. Ça, c'est une découverte.
Ça, c'est une
Et ça remet en cause beaucoup de choses, alors, de ce qu'on connaissait des dinosaures.
Ça remet quelque chose en cause. Ça suggère surtout que, si ça se trouve, primitivement, dès 220 millions d'années, les dinosaures les plus primitifs avaient peut-être déjà une espèce de duvet. Et que donc, la plume est l'apanage de tous les dinosaures. Et qu'en fait, ils ont perdu la plume par la suite au cours de l'évolution.
Ouais. Donc, tous les dinosaures auraient eu des plumes
au moins à leur naissance.
Au départ.
Oui, il faut bien d'ailleurs comprendre qu'il y a un lien très fort entre l'écaille et la plume. L'écaille du reptile et la plume de l'oiseau, c'est de la kératine. Et le professeur Étienne Wolff, au Collège de France, il y a des années de cela, sur l'embryon de poulet, en introduisant de l'acide rétinoïque, transformait les écailles des pattes des poulets en plumes.
Incroyable.
Donc oui, c'est une question d'évolution et développement. Et donc on peut imaginer un passage assez facile. Mais j'ai vécu en 1984... l'introduction de ce concept et l'acceptation fort disputée à l'époque des ancêtres des oiseaux. C'est John Ostrom, un remarquable paléontologue américain qui était à Yale, et ça s'est passé à Eichstätt en Bavière, avec des débats absolument passionnés, mais il a été le premier à apporter la preuve du nombre de caractères partagés à la fois par les oiseaux, l'Archaeopteryx et un petit dinosaure carnivore qu'il avait décrit, qui s'appelait Deinonychus. Et à partir de là, tout le monde s'est mis à accepter peu à peu ce changement, et ça a fait du bruit. Même si Huxley, du temps de Darwin, avait déjà imaginé cela, mais sans preuve.
Larry, sur franceinter.fr, nous dit ceci. Pourquoi supposer que les dinosaures avaient tous des plumes ? Est-ce qu'on ne dispose pas d'empreintes fossilisées dépourvues de plumes ?
Alors, évidemment, tous les dinosaures ne possédaient pas des plumes. On ne va pas reconstruire un brachiosaure avec des plumes, ça serait vraiment très très bizarre. Et tout à fait, c'est vrai que dans le registre fossile, on a énormément d'empreintes de pas. Mais j'ai envie de dire, si vous prenez une empreinte de pas de poulet, vous ne verrez pas de marque de plume, vous verrez des traces d'écailles. Donc on a beaucoup d'empreintes de pas qui montrent qu'il y a des écailles. Après, on va plus loin. On a aussi des hadrosaures, les dinosaures à bec de canard, qu'on dit souvent à tort momifiés, mais dont les empreintes de peau étaient conservées. Mmh. Et là, clairement, il n'y a pas de plume. Donc on ne dit pas que tous les dinosaures avaient des plumes tout le temps, mais on dit que, originellement, peut-être que les dinosaures possédaient des plumes et qu'après, la plume s'est perdue chez certains groupes, elle est restée, elle a pu réapparaître.
Mais alors, elle servait à quoi, cette plume ?
Régulation thermique.
Ouais.
Bien avant l'utilisation du vol, qui est venu bien après, comme une astuce d'ailleurs de l'évolution, du bricolage de l'évolution dont parlait François Jacob, à l'origine, c'est une question d'isolation. Le duvet et quand même permet de lutter contre les variations de température.
Oui. Qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau autour des plumes des dinosaures, Renaud Alain ?
On va falloir trouver d'autres. Je pense qu'en Sibérie, il va encore y avoir d'autres belles surprises parce que Pascal Godefroy travaille beaucoup avec les collègues chinois là-bas. Donc il va y avoir, je pense, d'autres découvertes dans les années qui viennent. Après, ce qu'il faut, c'est trouver des nouveaux gisements. Mais quand je dis nouveaux, c'est vraiment des gisements complètement inconnus jusqu'ici. Ce qu'on appelle des Lagerstätte, c'est-à-dire des gisements à conservation exceptionnelle. Et ces gisements à conservation exceptionnelle nous indiqueront peut-être des plumes. Cet été aussi, il y a eu quand même une belle découverte, c'est le 12e spécimen d'Archaeopteryx. Et ce n'est pas le plus beau d'un point de vue de l'anatomie du squelette. Par contre, pour les empreintes de plumes, il est juste extraordinaire. On a tous les détails, c'est-à-dire qu'une plume est faite d'un rachis médian, de petites barbes, de barbules, il y a des petits crochets qui attachent tout ça. Et on arrive à voir tous ces détails sur le nouveau spécimen.
J'ai posé une question à Ronan au sujet des plumes. Peut-on imaginer que sur les fameuses ornithomimines que vous trouvez à Anjac, sur les os des bras, il n'y ait pas la trace d'implantation de grosses plumes ?
Alors malheureusement non. C'est la première chose que j'ai vérifiée.
Oui, c'est
maintenant ce qu'on espère aussi sur. Oui, on pense qu'ils en avaient. On les fait reconstituer avec des plumes. Maintenant, ce qu'on espère trouver effectivement en Jacques, comme c'est des argiles, une argile très très fine. Ouais. L'argile peut conserver des choses assez exceptionnelles au niveau des empreintes. Peut-être qu'à un moment, en clivant les argiles, on pourra tomber sur des traces de plumes ou de fanères, ouais, ou des choses comme ça.
Quand je vous parlais de conservation tout à l'heure des plumes, ce sont des empreintes.
Ce sont des empreintes.
On n'a pas de plumes de l'époque.
On n'a pas de plumes.
On est d'accord.
Mais les sédiments sont tellement fins qu'ils vont mouler tous les détails de la plume. Et donc, en fait, on va avoir
voilà,
quand même.
Et on a les bases, préciser, hein.
On a la base des plumes, on a les petits organites qui sont à la base des plumes, les mélanosomes qui vont colorer les plumes.
Oui,
qui
on
se
a même
conservent.
La coloration.
Donc la coloration peut être retrouvée.
Donc on peut vraiment faire des reconstitutions très fidèles, hein, de
maintenant,
ce que pouvait être l'animal.
Ouais.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ce point dino, hein, évidemment, suite à toutes ces publications sorties cet été. Philippe Taquet, donc on vous retrouve demain dans le 7-9 de Patrick Cohen pour parler donc des 20 ans de la Galerie de l'Évolution. Et puis on peut également signaler, parce que c'est à partir de demain la fête de la science, un rendez-vous à l'Académie des sciences dont vous êtes le président. Ce sera Speed Science le 11 octobre pour permettre au jeune public de parler avec des scientifiques.
Voilà, le samedi après-midi, une centaine de lycéens de toutes les régions de France viennent rencontrer une centaine d'académiciens. Et ça, c'est formidable. Ils vont pouvoir discuter avec Serge Haroche, prix Nobel de physique, autour d'une petite table. Toutes les 7 ou 10 minutes, ils vont changer et aller vers un autre académicien selon leurs affinités, chimie, physique, informatique.
Très bonne idée, en tout cas, pour le principe de Speed Science. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, le quiz de la tête au carré. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, new dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, new dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick, keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake, keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean, got a speaker in the trunk, you know where's it done. You think I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rush. New York, New York. New York, New York. Late nights are black as the lights. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights are black as the lights. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home run. My girl got a minimum. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got a city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. Subtract avec New Dorp, New York, à l'instant sur France Inter, et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission. Et si nous testions vos connaissances scientifiques avec le quiz de la tête au carré, avec à mes côtés le grand maître des questions, Florence Porcel.
C'est moi, bonjour Mathieu.
Ça va Florence?
Mais très bien, et vous?
Ça va bien, deux nouveaux auditeurs nous attendent, on va tout de suite les rejoindre. C'est Marie-Hélène et Sébastien, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Marie... Bonjour Sébastien. C'est la liaison, c'est depuis Toulouse en fait, ça demande un petit peu de temps, c'est normal. C'est là que vous travaillez Sébastien?
Tout à fait, oui.
Et on m'a dit que vous travailliez dans une association d'animation scientifique.
Voilà, exactement. Je travaille dans une association nationale qui s'appelle Planète Science, où on propose des animations scientifiques aux enfants autour de quatre thèmes, l'astronomie, la robotique, l'environnement et l'espace.
Bah, c'est formidable.
Quel
et
bon
oui,
métier.
Évidemment, avec la Cité de l'Espace, pas loin de chez vous.
Tout à fait.
Marie-Hélène, vous habitez à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, et vous êtes auxiliaire de puriculture.
Voilà.
Tout va bien? Vous êtes en pause, là, en ce moment?
Non, moi, je cherche du travail.
Ah, très bien. Bah, écoutez, l'appel est lancé. Donc, on vous souhaite de trouver quelque chose le plus rapidement possible, en tous les cas.
Merci.
Florence, cette semaine, on joue avec les éditions Flammarion.
Et oui, c'est le dernier jour pour vous offrir le beau livre Science année après année. Et évidemment, c'est le joueur qui aura accumulé le plus de points qu'il remportera.
Voilà. Marie-Hélène et Sébastien, voici la première question liée à l'actualité scientifique récente. Si vous êtes prêts tous les deux, eh bien, nous partons. Il y a quelques jours, vous avez peut-être entendu parler de chercheurs qui ont réussi à observer une activité cérébrale intense chez un patient plongé pourtant dans un état végétatif permanent. Et cela en lui faisant regarder un film. Quel cinéaste célèbre a été choisi pour conduire cette expérience? 30 secondes pour votre réponse.
Spielberg?
Non. Il est aussi connu que Spielberg, génération précédente.
Oui, génération précédente.
On vous aide un tout petit peu.
Génération précédente.
Vous en avez entendu parler Kubrick. Ou pas, Sébastien et Marie-Hélène?
Non, ce n'est pas Kubrick.
Non, pas du tout, non.
Alors, grand cinéaste.
Kubrick.
Non. Mais c'est même carrure en tous les cas.
Un des plus connus de l'histoire du cinéma.
Voilà. Si je vous dis le maître du suspense.
Hitchcock.
Oui. Marie-Hélène. Marie-Hélène a trouvé, c'était bien Hitchcock.
Et je ne vous ai pas du tout aidé, Marie-Hélène, bien sûr.
Non, pas du tout.
Voilà, des neuroscientifiques, en fait, ont fait visionner sous IRM un extrait d'un film d'Hitchcock, donc à des personnes saines, et à deux patients en état végétatif. Et l'activité cérébrale d'un des deux malades était similaire à celle des personnes conscientes. Alors, c'est donc un début d'espoir pour les familles et une piste pour les chercheurs, évidemment, qui travaillent sur l'état de conscience des patients en état végétatif persistant.
Marie-Hélène, c'est cadeau, ces points. Hein,
c'est 10 points pour vous, Marie-Hélène.
Voilà, 10 points pour commencer. Allez, vous allez vous rattraper, Sébastien, j'en suis sûr, avec ces questions de rapidité. Il y en a 7, la bataille sera rude, vous avez 1 minute 30 et je vous propose tout de suite de lancer le chrono. Voici la première question. Comment appelle-t-on un nombre entier qui n'est pas multiple de 2? C'est tout simple, hein, c'est la première question.
Premier.
Non, non, non. Un nombre entier qui n'est pas multiple de 2?
Impair.
Un nombre impair, bonne réponse, Sébastien. Comment appelle-t-on la peur des lieux publics et des espaces ouverts?
L'agoraphobie.
Bonne réponse, Marie-Hélène. Quel scientifique a donné son nom à la classification périodique des éléments?
Mendeleïev.
Bravo, Sébastien. Comment s'appelle la loi qui prévoit la croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs? Souvent évoquée dans l'émission, lorsque nous avons parlé d'informatique. Alors,
pas d'idée.
On passe à la cinquième question.
Oui.
Allez, qui a interprété le rôle principal du film Contact, sorti en 97 et inspiré du travail de la dirigeante de l'Institut
CETI?
Non. C'était autour du Centre de Recherche d'Intelligence Extraterrestre. C'était une...
Le CETI.
Oui, mais le nom de l'actrice, Sébastien?
On peut passer et y revenir. Hein.
Allez, sixième question. Quelle espèce d'arbre produit du latex qu'on utilise pour fabriquer du caoutchouc, les BA? Septième question, comment appelle-t-on le smilodon dans le langage courant? C'est un animal.
C'est un animal.
On va vous aider quand même un petit peu.
Qui n'existe plus.
Le smilodon, ça vous dit quelque chose?
Le dodo?
Rien.
Non.
Allez,
c'est un animal préhistorique.
C'est un félin.
Oui, Sébastien a donné la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on fait?
On l'accepte.
On l'accepte hein, c'était
bon.
Avant.
Sébastien, vous avez donné la bonne réponse. Le tigre à dents de sabre. Voilà, l'autre nom du smilodon, et c'est beaucoup plus simple. Effectivement, un félin qui a vécu il y a quelques millions d'années, Florence.
Oui, entre 2,5 millions et 10 milliers d'années avant notre ère. Voilà.
Comment appelle-t-on la loi qui prévoit la croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs? C'est la loi de Moore.
Voilà, la loi de Moore.
Et qui a interprété le rôle principal du film Contact en 97?
Alors ça, c'est Jodie Foster.
Vous n'avez pas vu ce film, peut-être, Marie-Hélène et Sébastien? Ça ne vous dit rien, hein?
Voilà. Si, moi je l'ai revu il n'y a pas très longtemps en plus.
Mais il est sorti il y a un petit moment. Alors, on fait le total des points pour savoir qui est le plus en avance dans
le
jeu aujourd'hui.
Au total, nous avons 15 points pour Marie-Hélène et 20 points pour Sébastien qui s'est bien rattrapé avec le quiz.
Petite avance du côté de Toulouse.
C'est serré.
C'est le moment de passer au mot mystère. Qui commence, Florence?
Eh bien, Marie-Hélène, par exemple.
Marie-Hélène, vous avez donc 45 secondes pour faire découvrir le mot que vous avez sous les yeux à Sébastien. C'est parti.
Alors, c'est une classe d'animaux. Ce sont des mollusques qui peuvent avoir des coquilles ou pas de coquilles.
Gastéropodes.
Bonne réponse.
Bravo, Sébastien.
L'animateur scientifique commence à retrouver de l'énergie.
L'école de la bête.
Et ça nous donne un point supplémentaire, même plus.
10 points supplémentaires.
10 points pour vous. Sébastien, bravo. Vous avez mis 3 secondes pour répondre. C'est très bon. Vous avez vous aussi un mot sous les yeux, Sébastien ?
Tout à fait.
Vous êtes prêt à en donner la définition à Marie-Hélène ? Eh bien, c'est parti.
Alors, donc, il s'agit d'un terme scientifique qui définit la décomposition de la matière par la chaleur. C'est un procédé qu'on peut retrouver dans les fours pour les nettoyer.
Oui, bonne image.
Pyrolyse.
Pyrolyse, ouais, très bonne image. Voilà, pour vous aider. C'est effectivement la pyrolyse. On fait le total final des points, Florence.
Et bien voilà, avec 10 points chacun pour la dernière manche.
C'est Sébastien qui remporte le jeu. Hein.
C'est Sébastien qui remporte le jeu de 30 points à 25 pour Marie-Hélène, qui donc était pas loin derrière.
C'est vrai.
Félicitations, Sébastien, vous remportez donc Science année après année des éditions Flammarion, qui est disponible en librairie depuis hier.
Est-ce que vous avez une bibliothèque au sein de votre association, Sébastien ?
Tout à fait, oui.
Bon, bah, c'est un nouvel ouvrage que vous allez pouvoir mettre dans le rayonnage.
Oui, il est très intéressant.
On pourra compléter la collection. Oui.
En plus.
Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Passez une excellente journée.
Merci à vous.
Vous aussi, au revoir.
Et franceinter.fr pour s'inscrire Florence.
Voilà, et je vous appellerai si vous inscrivez.
On se retrouve lundi maintenant.
Mais bien sûr.
C'est déjà terminé.
C'est déjà terminé.
Bonne fin de semaine.
Bon week-end à vous.
Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Affaires sensibles, c'est dans quelques instants. Nous allons partir en Italie, c'est ça aujourd'hui?
Oui, pour l'assassinat du juge Falcone et le juge antimafia assassiné le 23 mai 1992. Et Marcel Padovani, journaliste au Nouvel Obs, est notre invité. C'est elle qui a réalisé l'interview événement du juge Falcone et dont elle a fait un livre intitulé Cosa Nostra.
Ce sera donc dans quelques minutes après les infos. Merci à Clément Vuillet et Ludovic Asselot qui étaient à la technique. Demain, les clubs des têtes au carré. Nous accueillerons entre autres la médaille d'or du CNRS Gérard Berry.